Kézako, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Vous connaissez tous sûrement ce proverbe prononcé par Talleyrand. Et vous avez également des noms de femmes en tête, comme par exemple la mère d'Edward Teller ou encore Michelle Obama. Cependant, il y a une multitude de femmes que l'on ne pourrait citer car elles sont tout simplement méconnues. Ce sont les femmes de l'ombre. La raison ? L'effet Matilda. Ce terme désigne le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. De nombreuses femmes célèbres aujourd'hui en ont été victimes, comme Marie Curie par exemple. Mais d'autres sont restées dans l'ombre. C'est pourquoi, dans ce 4e épisode de la série Les femmes de l'ombre de Kézako, nous allons mettre la lumière sur une autre scientifique qui aurait mérité d'être célèbre, mais qui ne l'a pourtant pas été. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la femme qui a découvert la structure de l'ADN, Rosalind Franklin. Ce nom vous est inconnu ? Ne partez pas, c'est normal. Si vous la connaissiez, ce podcast n'aurait aucun intérêt. Mais ne vous en faites pas, on va y remédier. Si elle n'a pu inscrire son nom dans l'histoire, nous tenterons tout de même de l'inscrire dans nos mémoires. Laissez-moi vous conter son histoire. C'est le 25 juillet 1920 que Rosalind Elsie Franklin voit le jour. Fille d'une famille bourgeoise de Londres, à Notting Hill, à seulement 11 ans, elle commence à étudier la physique et la chimie, dont l'une des seules écoles de la ville proposait cet enseignement. Et en effet, l'école qu'elle intégra s'appelait la St. Paul Girls School et c'était la seule école de sa ville qui proposait justement des enseignements scientifiques aux jeunes filles pour l'époque. Brillante élève, la jeune scientifique qui réussit ses examens universitaires haut la main et décroche même une bourse pour l'université de Cambridge. Une récompense qu'elle cède à la demande de son père à un réfugié juif victime de la montée du nazisme, hébergé par sa famille. Un geste humble qui ne l'empêche pas d'intégrer tout de même le Newnham College à l'université de Cambridge pour étudier la chimie. Encore une fois, Rosalind Franklin excelle dans son domaine et elle obtient son doctorat pour ses travaux sur la porosité du charbon qui contribue à la classification des charbons et permettent ainsi de déterminer leur intérêt industriel, notamment pour la production de carburant et de masques à gaz. En 1957, elle se rend alors à Paris et intègre le laboratoire central des services chimiques. Et c'est là qu'elle se forme à la cristallographie au rayon X aux côtés de Jacques Méringue. Cette technique lui permettra d'ailleurs d'étudier les cristaux au niveau atomique et elle l'utilisera alors pour déterminer les structures du carbone, notamment sur le passage du charbon au graphite. En 1951, de retour en Angleterre, elle prend un poste au King's College à Londres et elle s'y consacre à la structure de l'ADN où elle travaille avec le physicien Maurice Wilkins. Malheureusement, leur relation se dégrade rapidement, d'autant que les premières recherches de Rosalind Franklin lui permettent en effet de refuter les modèles d'ADN déjà établis par son collègue. Et c'est en 1952 que le miracle se produit. Grâce à sa maîtrise des techniques de la diffractométrie au rayon X qu'elle applique à l'ADN et au terme d'une centaine d'heures d'exposition à ces derniers, la scientifique parvient à distinguer sur le cliché numéro 51 la structure de l'ADN et elle parvient également à identifier ses deux hélices dites A et B. Le cliché 51, pris par Rosalind Franklin à l'origine de ses déductions, va devenir primordial pour les recherches menées par James DeWitt Watson et Francis Crick sur la structure hélicoïdale de l'ADN. Les relations avec ses collègues masculins sont si mauvaises au point qu'on lui demande d'arrêter ses travaux sur l'ADN ou de partir. Ce dilemme lui permettra ainsi de prendre la seconde option, qui est celle de quitter le lieu. Et en effet, en mars 1953, Rosalind Franklin quitte le King's College pour le Birkbeck College et ses travaux sur l'ADN doivent tout de même rester sur. James Watson et Francis Crick publient dans la revue Nature leur modèle de la structure de l'ADN. Rosalind Franklin n'est même pas mentionnée dans les auteurs et elle n'apparaîtra seulement que dans les remerciements à la demande de Maurice Wilkins. Pendant ce temps, au Birkbeck College, toujours à l'aide de la diffractométrie au rayon X, Rosalind Franklin va étudier les virus et poser les bases de la virologie structurale en étudiant la façon dont va assembler un virus à partir d'une molécule d'ARN. James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins obtiendront eux à leur tour le prix Nobel de médecine en 1962 et Rosalind Franklin, quant à elle, est morte déjà depuis 4 ans en avril 1958 à des suites d'un cancer des ovaires qui, comble du sort, a possiblement été déclenché par son exposition aux radiations. Ce sacrifice au nom de la science ne lui aura tout de même pas valu le prix Nobel car il ne peut être remis à titre posthume et Rosalind Franklin a de toute façon été en grande partie évincée de sa découverte dans les discours de remerciement. Seul Maurice Wilkins la citera en indiquant qu'elle a apporté une contribution précieuse à la découverte de la structure de l'ADN. Francis Crick et James Dewey Watson l'oublient sciemment. Pire, ce dernier, 10 ans après la mort de la chercheuse, en dresse le portrait dans son best-seller La double hélice d'une personne acariâtre. Avant de reconnaître enfin, lors d'une interview en 2003, que Rosalind Franklin aurait également mérité le prix Nobel. Elle restera donc la grande oubliée dans l'histoire de l'ADN.